Il est 7h26 minutes, deux jours après la fusillade de Rivière-des-Prairies. Hier se tenait une importante conférence de presse en lien avec ces événements violents qui se succèdent à Montréal. Des fusillades, il y en a à peu près à tous les jours et dans plusieurs quartiers de la ville, pas juste dans Rivière-des-Prairies. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, a annoncé la mise sur pied d'une équipe intégrée qui sera coordonnée par la Sûreté du Québec pour lutter contre le trafic d'armes à feu et contre la violence liée aux armes à feu. Sur le terrain, comment est-ce que ça va se déployer et est-ce qu'on va avoir, en fait, quels effectifs seront accordés justement à cette unité-là? Sylvain Caron est directeur général du service de police de la ville de Montréal. Bonjour, Monsieur Caron.
Bon matin, Monsieur Lacroix.
Alors, il va y avoir combien de policiers dans cette nouvelle, appelons ça, unité?
Ben, écoutez, on est encore en train de faire le dessin. C'est tout récent, le dénouement, évidemment, de cette équipe intégrée-là, considérant les événements fâcheux et inacceptables qui sont arrivés lundi soir. Alors, dès mardi matin, des réflexions se sont entreprises. Il y a eu des échanges avec la Sûreté du Québec. On a eu le support de la Sûreté pour le soutien. Et au fil de la journée de mardi, de mercredi, on a convenu avec la Sûreté. La Sûreté a offert son aide. Alors, on a convenu de faire une équipe intégrée. Au moment où je vous parle, le nombre d'effectifs n'est pas connu. Par contre, ce qui est clair, c'est que du nombre d'effectifs qu'on avait prévu pour notre équipe de lutte, nous, ELTA, qu'on appelle depuis, qu'on avait annoncé en décembre dernier, en place depuis février seulement, en 2021.
Ouais.
Alors, il y a un certain nombre de policiers qui vont se joindre à l'équipe intégrée. Et les autres policiers, ça va nous permettre, nous, de se dégager du trafic. Parce que faire du trafic d'armes à feu, c'est pas simple, OK? C'est assez compliqué. Les règles de preuve sont là. Alors, ça demande beaucoup, beaucoup de mois d'enquête.
Ouais,
alors, ça va nous permettre de dégager des effectifs pour aller travailler plus près du terrain dans nos régions, dans le sud, dans l'ouest, dans le nord et dans l'est de la métropole.
OK. Parce que vous parlez de l'équipe ELTA, là, il y avait quoi? C'est 12 enquêteurs, 8 policiers fileurs, dit-on, et un lieutenant détective. C'était ça que vous aviez à peu près là, comme
effectif? 23. On a 23 effectifs en place depuis l'annonce qu'on a fait. L'objectif était de les amener à 40 au total d'ici la fin de l'année avec l'aide du gouvernement qu'on a reçu de Mme Guilbeault en juin lors de l'annonce qu'on a fait à la mi-juin. Alors là, on va réajuster nos affaires, évidemment, pour s'adapter à la situation. Alors, ce qu'on fait, évidemment, compte tenu de la situation qui perdure, il faut prendre des actions. On reste pas en statutaire et on dit, bon, on va attendre. Non, là, c'est assez. Évidemment, il n'y a pas eu de victime innocente, on ne souhaiterait pas qu'il y ait une autre victime.
Bon, moi, j'ai entendu des critiques à cet égard-là de gens qui disent, entre autres choses, des gens qui m'ont écrit d'ailleurs, des anciens policiers, des gens qui travaillaient au SPVM également, qui me disent, c'est bien beau, mais de lutter contre le trafic des armes, mais ce qu'on me disait, c'est, si tu mets une arme là, elle tirera pas sur personne, ça prend quelqu'un en arrière pour tirer sur les gens. Et donc, ils vous reprochent, des anciens enquêteurs du SPVM, qui disent, ben écoutez, pourquoi est-ce qu'on a aboli la fameuse escouade de gangs contre les gangs de rue? Là, il y avait une quarantaine d'enquêteurs là-dedans, là, qui étaient répartis un peu partout sur les quatre territoires dont vous avez parlé tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on a aboli ça alors que là, c'est bien beau de dire on contrôle les armes à feu, mais les gens qui tiennent les armes à feu, il faudrait aussi essayer de contrôler ça.
Faut pas oublier que les armes à feu, c'est un outil. Alors, c'est un outil qui est utilisé par des groupes criminalisés, des gangs criminalisés. Alors, on s'attaque aux groupes de toutes les formes de criminalité. Alors, que ce soit en stupéfiant ou en fraude ou en exploitation sexuelle. Alors, on s'attaque à ces gens-là. À toutes les semaines, M. Lacroix, on saisit des armes à feu dans les différents dossiers qu'on travaille. Alors, il y a des armes à feu. Il y a beaucoup trop d'armes à feu en circulation. Alors, oui, ils ont raison qu'il faut s'attaquer aux groupes. C'est ça qu'on fait. On s'attaque aux groupes. Puis là, on se rapproche des groupes par les effectifs qu'on dégage et qu'on va travailler de plus près avec. Pourquoi, dans le passé, on a aboli les groupes? Je pourrais pas vous dire le contexte dans lequel on évoluait la direction du service à ce moment-là. Le contexte de 2021 nous commande de prendre des actions. Alors, on prend des actions pour assurer la sécurité de la population.
Mais est-ce que ça a été une erreur d'abolir ça il y a quelques années, il y a quoi, 5 ou 6 ans, là, on avait aboli l'unité au complet. Est-ce que ça a été une erreur quand on regarde ça, là, a posteriori?
je ne commenterai pas une décision qui a été prise il y a 5-6 ans alors que je ne connais pas le contexte dans lequel la décision a été prise. Le contexte 2021 nous commande de prendre des actions actuellement et c'est ce qu'on fait. Et la raison pour laquelle on s'est assis avec la Sûreté du Québec, on a convenu ensemble du partage de responsabilités pour être meilleur, pour être plus efficace puis être capable d'assurer la population, rassurer la population montréalaise.
Ouais. Bon, l'autre critique que j'entends, c'est, on me dit, bon, il y a 2 ans, vous aviez créé une unité là qui voulait combattre le crime organisé, n'est-ce pas? Puis moi, il y a des gens qui me disent, les policiers de la Sûreté du Québec, ils veulent pas y aller travailler au SPVM, parce qu'il y a toujours ce fameux conflit là entre les verts puis les bleus là, puis les policiers de la SQ puis les policiers de la ville de Montréal. Alors on me dit que ça a été difficile de recruter des policiers à la SQ pour aller vous donner un coup de main.
Mais c'est pas tout le monde qui veut venir travailler à Montréal, c'est pas qu'ils veulent pas travailler avec la Sûreté du Québec, c'est le problème avec la SPVM, c'est le problème, c'est l'accessibilité à nos locaux. Alors on a convenu, alors on a des gens actuellement de la Sûreté qui sont avec nous dans nos locaux dans différents domaines d'activité. Alors on a convenu qu'on continue à travailler, qu'on va continuer à faire la même chose. Alors c'est juste que quand tu as le choix d'aller travailler en région, dans un endroit où il y a peu de circulation, peu de déplacements, puis il faut que tu t'en viennes sur l'île de Montréal avec les problèmes de circulation qu'on connaît, c'est juste ça. Parce que les gens travaillent très bien en crime organisé, très bien en crime économique.
Ben, je comprends, vous l'expliquez, puis c'est excellent, là, mais je veux dire, est-ce que vous allez être capable de les recruter, ces gens-là? Est-ce qu'ils vont... Vous allez être capable d'aller chercher les ressources dont vous avez besoin à la Sûreté du Québec pour venir travailler ici? Si ça n'a pas marché avant, pourquoi est-ce que là, ça marcherait?
Tout à fait, ça va marcher. Alors, on a, comme je vous disais, depuis mardi, on a déjà 4 enquêteurs qui sont avec nous. Alors, il y en a d'autres qui vont se rajouter. On a trouvé un local qui va le satisfaire sur l'île de Montréal, qui va satisfaire tout le monde. Alors, on est en démarche avec les gens de la Sûreté, puis on va avoir des gens. Là, la semaine prochaine, on va avoir des gens qui vont s'additionner au groupe qui est déjà en place.
Bon. Ça, c'est bien beau à moyen terme, là, parce que, bon, je comprends là, qu'il faut organiser tout ça, mais des fusillades, là, depuis quelque temps, il y en a presque une par jour, là. On a passé, je pense, c'est 10 jours, il y a en ligne, où il y avait eu des fusillades dans différents... Puis pas juste dans Rivière-des-Prairies, là, dans différents quartiers de la ville de Montréal. Alors, aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se fait pour essayer de contrer ça? Je comprends que vous ne pouvez pas tout prévoir puis être à la place des... arriver avant que le crime se commette, là, je comprends ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant de façon urgente pour essayer de contrer ça?
Ben, actuellement, évidemment, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont en cours. Alors, ça, c'est un aspect important. Il y a une présence policière accrue dans tous les secteurs concernés de l'île de Montréal. Alors, autant qu'on parle de la région dans le sud, dans l'ouest de l'île, ou dans le nord ou dans l'est, alors on a un surplus de policiers qui est affecté à tous les jours pour nous supporter nos patrouilleurs dans les postes de quartier. On a des agents socio-communautaires qui travaillent avec les organismes du milieu pour tenter d'essayer de dynamiser le parce que c'est pas juste un problème de police, vous savez. Oui, c'est la police qui actuellement doit prendre des actions compte tenu de la circonstance, mais que les jeunes n'ont pas rien à faire dans un secteur donné parce qu'il n'y a pas d'activité ou il n'y a pas de piscine, le milieu n'est pas favorable. Ouais. Alors, c'est pas juste une histoire de police. Alors, la police fait ce qu'elle peut, évidemment, avec les organismes du milieu puis les collaborateurs du milieu à tous les niveaux. Donc, on fait de la prévention, on travaille en visibilité puis on travaille en enquête. Alors, puis on augmente la pression dans le milieu par des interventions de toute nature auprès des criminels pour, évidemment, déstabiliser puis saisir des armes à feu.
Mais c'est intéressant ce que vous racontez là. C'est que on dit souvent que l'oisiveté est la mère de tous les vices, là. Alors, si on les occupe pas, si on les stimule pas, justement, à s'impliquer dans différentes activités, qu'elles soient sportives ou communautaires, vous allez avoir des problèmes en bout de ligne. Mais là, ça tombe dans le cours du politique, par contre. C'est pas vous. C'est quand même pas la ville de Montréal, la police de Montréal qui va organiser des matchs de hockey puis qui va financer des arénas. On comprend ça.
Non, on comprend ça. Puis je pense qu'il y a une mobilisation importante qui est faite actuellement au niveau politique, tant municipal que provincial. Puis il y a des discussions en cours. Puis d'ailleurs, je pense qu'il y a des agents qui ont déjà été investis en prévention pour aider les organismes du milieu. Ouais. Alors, je pense qu'il y a une sensibilisation qui a été faite. Puis il y a des gens qui sont en mouvement actuellement à ce côté-là.
Bon. Où était la GRC hier? Parce que c'est la grande absente de cette conférence de presse hier, la GRC.
Ben, vous comprendrez que les décisions sont vraiment été prises à très court terme compte tenu des circonstances de lundi soir. Alors, il y a eu des discussions entre la Sûreté et la GRC. Madame Beausoleil en a fait état hier, Joanne Beausoleil, qui est la directrice générale intérimaire de la Sûreté. Alors, la GRC s'est bien intéressée à participer. Alors, les discussions se poursuivent. Comme Madame Guilbeault nous a dit, au cours des prochaines semaines, il y aura une annonce plus formelle qui se fera. Alors, c'est vraiment en balbutiement actuellement. Puis la GRC s'intéresse à se joindre à nous. D'ailleurs, on a déjà des gens de la GRC qui travaillent avec nous dans différents domaines d'activité. Alors, on va poursuivre la collaboration qu'on a avec la GRC et la Sûreté.
Est-ce que vous souhaitez que cette unité-là devienne ultimement quelque chose comme ce qu'avait été Carcajou à l'époque pour la lutte contre les motards criminalisés? On avait mis en commun là les forces du SPVM, la Sûreté du Québec, la GRC, et ça avait donné des résultats. Est-ce que c'est un peu le modèle que vous souhaitez pour les gangs de rue?
Oui, pour les trafics d'armes, pour la circulation des armes, il faut une équipe intégrée. Et la question des gangs criminalisés, des groupes criminalisés, alors il faut mettre de la pression. Il faut mettre de la pression sur ces groupes-là. Et évidemment, ce qu'on organise actuellement, nos équipes, plusieurs équipes travaillent de front actuellement pour mettre de la pression, pour arrêter les gens reliés à ces groupes-là, pour évidemment ces fusillades qui surviennent un peu partout sur le territoire de l'île.
Mais on a l'impression que vous voulez pas parler de gang de rue. C'est tout mon... Vous aimez pas ça, cette expression-là, on dirait, hein?
Ben écoutez, qu'on parle de gang de rue, ben c'est parce que moi, j'aime mieux parler de groupe criminalisé ou de gang criminalisé, parce que quand on identifie gang de rue, on les stigmatise. Alors, on ne veut pas stigmatiser des gens. Alors, on a des groupes criminalisés, qu'on les appelle des gangs, qu'on les appelle groupes, qu'on les appelle gangs de rue. On fait affaire avec des gens qui sont criminalisés, ils sont vraiment des gens émotifs puis impulsifs. Alors, on se retrouve avec des gens qui vont commettre des crimes comme lundi soir, qui est inadmissible. C'est inacceptable ce qui s'est passé lundi soir à Montréal. Alors, il faut prendre des actions. Il est possible des actions qu'on prend, puis on se réajuste, puis on tente de prendre les meilleures décisions pour évidemment assurer la meilleure sécurité de notre population.
Bon, les gangs de rue ont quelque chose d'assez particulier, dit-on, en tout cas quand on parle des experts. Bon, quand on compare avec les motards, par exemple, on les connaît, les motards, on sait qui est le chef, je sais pas moi, des Hells Angels, puis qui sont les hang-around, puis qui sont les membres en règle, puis etc., puis les clubs écoles. On connaît la structure, on est capable de les photographier, puis dire, ben lui, là, c'est un des responsables, puis lui, il est responsable de ci, de ça. La mafia, c'est la même chose. Est-ce que c'est plus difficile de contrôler les gangs de rue parce qu'ils sont... incontrôlables ou en fait imprévisibles?
Ils sont très imprévisibles, ils sont très impulsifs, ils sont jeunes. Écoutez, on a arrêté des jeunes de 16 ans et 17 ans avec des armes à feu, M. Lacroix. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Alors, il y a vraiment un sentiment d'impunité actuellement, puis de banalisation de l'utilisation de l'arme à feu. Et ça n'a pas de bon sens. Puis c'est pas un phénomène montréalais uniquement, malheureusement. Les gens d'Ottawa le vivent, les gens de Toronto le vivent. Alors, c'est un phénomène sociétal, mais il reste que c'est inadmissible qu'on ait des jeunes de 16 ans, 17 ans qui ont des armes à feu en leur possession puis qu'ils utilisent à mal escient, évidemment. Une arme à feu, c'est pas fait pour tirer du monde. Ça peut être pratiqué dans un chantier, ça peut être pratiqué dans un chantier. Mais là, écoutez, ça n'a plus de bon sens. Ça n'a plus de bon sens. Alors, on a pris les actions nécessaires pour, évidemment, aller encore plus loin, puis être meilleur, puis être plus efficace pour mettre de la pression sur ces groupes-là.
Bon, depuis le décès des trois personnes lundi, sur les médias sociaux, il y a une espèce d'enchaînement, en fait, de messages haineux où on crie vengeance. Est-ce que vous vous attendez à court terme, au cours des prochains jours, qu'il y ait une vengeance qui s'opère et qu'on veuille venger le décès de ces gens-là?
Alors, évidemment, on craint une réplique et on fait tout le travail nécessaire. Puis on met tout le temps les énergies requises pour éviter qu'il y ait une réplique quelconque. Alors, nos enquêteurs, avec les policiers patrouilleurs et tous les gens qui sont concernés, travaillent très fort actuellement pour éviter qu'il arrive une réplique.
Est-ce que vous faites des veilles sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des policiers qui sont affectés, justement, à voir... S'il y a des menaces qui se font dans ce sens-là, pour essayer de voir venir les coups, est-ce que vous avez des policiers qui sont sur les médias sociaux pour voir ça?
Tout à fait, on a des gens, c'est ce qu'on appelle le soutien en enquête. Alors, on a des gens qui travaillent avec les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, puis la Sûreté du Québec va venir nous donner un coup de main, évidemment, pour renforcer cette présence-là sur les réseaux sociaux, de par le soutien qu'ils vont nous offrir depuis mardi.
Et ça va être connu quand, les détails de tout ça, finalement, M. Carman?
Ben, on aimerait, dans les plus brefs délais, M. Lacroix, je pense pas que ça aille à l'avant début septembre, mais dès que ça sera disponible, on fera le nécessaire pour convoquer les médias pour vous informer de la mouture de cette nouvelle équipe intégrée.
Donc, pas avant le mois de septembre, c'est ce que je comprends.
Ben, les actions, les gens travaillent, ils vont sur le terrain, ça va se faire, mais la finalité, la composition, le nombre exact, Alors, il y a des gens qui vont travailler. J'ai déjà des gens, moi, au service de police de Montréal, qui travaillent dans le groupe ELTA. Les gens de la sûreté se joignent à nous cette semaine, la semaine prochaine. Alors, on va avoir déjà des gens sur le terrain. Mais la finalité, la composition, le nombre de gens de la GRC, du SPVM, puis la finalité au complet, je crois que ça va aller à la fin août, début septembre. Je pense pas que ça ira dans ça.
Merci beaucoup, M. Caron, d'avoir été avec nous.
Merci, M. Lacroix. Bonne journée.
Au revoir. Sylvain Caron est le directeur général du service de police de la Ville de Montréal. On a mis en place une structure qui ne sera pas opérationnelle. En fait, on a des gens qui travaillent sur le terrain, comme il vient de le dire, mais la structure ne sera connue qu'au début du mois de septembre.